Les creux de maison. Deuxième partie, chapitre 3. Louis VI. Chauvin du Paty était un homme de 50 ans, gros et court. Il était le frère de Chauvin du Bourg, qu'on appelait Chauvin le Riche, parce qu'il avait épousé tout jeune une fille de 30 ans, méchante, laide, un peu bossue, mais connue sous le nom de Marie Fesse Dorée. À vrai dire, Chauvin du Bourg n'était plus bien riche, ayant perdu de l'argent dans un petit trafic de graines. Il avait cependant pu envoyer ses deux enfants à l'école, l'aîné était prêtre, et le cadet avait une place quelque part dans les bureaux. Tout cela faisait que les Chauvins étaient des gens considérés dans la commune. Celui du Paty passait lui-même pour riche, bien qu'il ne le fût point. En tous les cas, c'était un vrai brave homme. Il aimait le travail bien fait et vite fait, mais tous ceux qui le connaissaient le déclaraient franc comme l'or. Ses anciens valets disaient « Chauvin, Chauvin du Paty, dur de peau, tendre de cœur. Chez lui, on se lève tôt, mais le bon ouvrier est bien vu. Bon gars et bonne maison. Bonne grange, disaient de même les vieux mendiants qui vont le long des routes béquillant et clochant. Bonne grange, on n'y est pas chiche de paille. » Séverin fut vite accoutumé à sa nouvelle condition. Il était va-devant. Après lui venait un second valet et les fils, Jacques et Florentin, l'un de 18 ans, l'autre de 15, tous les deux ardents à l'ouvrage, bien qu'un peu mastoc, comme le père. À la maison, il y avait deux filles qui aidaient la patronne. Un grand fils aîné et un plus jeune étaient morts en 15 jours, quelques années auparavant. Chauvin ne s'en était pas consolé. Il parlait peu et d'une voix toujours grave. D'ailleurs, il avait, sans qu'on le sût, d'autres tracas. Ses affaires n'allaient pas, il avait des dettes. Depuis la mort du gars, il fallait un grand valet de plus, et encore avait-on bien de la peine. La terre, en effet, sans être mauvaise, était malaisée, compacte, lourde comme pâte. Les pluies de printemps la rendaient inabordable. Surtout, le Paty était à fermer beaucoup trop cher. La première année que Séverin passa chez Chauvin fut l'année de la sécheresse. Année mauvaise pour tous, année fatale aux petits cultivateurs qui vivaient au jour le jour. Un été superbement bleu brûla la terre. Le printemps ayant été frais, les labours de mars avaient fait dans les champs d'argile du Paty de grosses mottes luisantes. Elles devinrent si dures par la suite, ces mottes, qu'on les aurait prises pour d'énormes briques contrefaites. Les plants de betteraves et de choux ne prirent pas racine, ou se desséchèrent peu à peu. Le maïs, à peine né, fut roussi. Les gens se désolaient. Ils guettaient les nuages, sondaient l'horizon pâle, suivaient de l'œil la moindre fumée. Deux ou trois fois, des flocons très hauts et très blancs, semblables à de la laine bien cardée, cachèrent le soleil. À ces moments-là, on criait d'un champ à l'autre. « Cette fois, ça y est, le temps est caillebotté. La belle nuée est sur le soleil. Il y a du changement. » Mais la belle nuée s'en allait doucement comme une lente troupe d'oiseaux sauvages. Et bientôt, on la voyait massée en un tout petit coin du ciel. On fit des prières. Les prêtres consentirent à mener au pied des calvaires des processions chantantes qui soulevaient toujours la même poussière jaune. Et comme tout cela n'amenait pas l'eau, des femmes imaginèrent d'aller prier au pied des arbres qui abritent les sources. Elles partaient le soir par groupes de 3 ou de 7, et elles allaient, dans l'ombre recueillie, offrir leur formule chrétienne aux vagues divinités des branches et du vent. Le temps des moissons vint et passa sans que l'on vît l'eau. Quelques coups de tonnerre se firent entendre, mais la nuée ne creva jamais. L'orage, même avec de la grêle, eût été le bienvenu. Tout, plutôt que ce ciel trop bleu et ce soleil trop blanc, qui buvaient l'eau des mares. Les ruisseaux étaient secs, les fontaines et les puits baissaient. Les menues sources éparses dans les prébas, celles qui jaillissent au revers des talus dans les chemins creux, étaient depuis longtemps taries. La terre ne pouvait plus suer. Le moment fut dur pour beaucoup de fermiers. Quelques-uns fléchirent, il y eut des ventes. Comme les fermages ne diminuaient point, les gages des vallées eurent une tendance à baisser. Séverin, pour rester au pâti, dut se contenter de 325 francs. Delphine, qui se trouvait de nouveau enceinte, n'avait pas pu travailler hors de chez elle. Pour arranger les choses, elle accoucha vers la fin de décembre de 2 Bessons. Coïncidence étrange et qui fit beaucoup rire ceux des pelleteries. Une dizaine d'heures plus tard, la Maufrette accouchait de son 13e, un énorme garçon. Les 3 enfants furent baptisés le lendemain, jeudi. En sortant de l'église, Séverin et Maufret allèrent ensemble chez le greffier de la mairie, M. Caillat. M. Caillat, fils d'un paysan aisé, avait été quelque peu au collège. Trop peu fortuné pour vivre absolument en propriétaire, il avait été successivement commis de perception, expert, agent d'assurance. Depuis une dizaine d'années, il faisait les écritures de la mairie. C'était surtout un grand chasseur. Ce jour-là, M. Caillat était absent. Mme Caillat, ayant entrebâillé la porte, montra une minute sa tête jaune, juste le temps de leur apprendre que c'était bien fait pour eux, qu'ils n'avaient qu'à venir plus tôt. Un moment après, ils revinrent. Cette fois, le chasseur était rentré. Moyennant l'abandon de leurs sabots dans le corridor, ils purent pénétrer dans la cuisine où M. Caillat écrivait. M. Caillat était grand et gros. Il en était fier. Il disait « La bête noire et moi pesons un hippopotame !» Et il riait quand les gens ignoraient les hippopotames. La bête noire était le curé. M. Caillat s'y connaissait en bassé. Pour le reste, il était d'une grande simplicité. La paysanne cossue qu'avait été Madame Caillat avait acheté en se mariant le nom de dame et le droit de porter chapeau. Même la semaine, elle avait abandonné résille et bonnet, et ses cheveux gris, rudement tirés, se rassemblaient sur son crâne pointu en un chignon assez semblable à une corne de pintade. Elle parlait le moins possible aux ménagères voisines, sauf à une vieille demoiselle à moitié folle, mais pourvue de rente. Elle était méchante et plus sotte qu'une oie de pintade. Chacun la détestait dans le village. On ne rappelait que la corme, et de fait, elle était astringente comme une poire sauvage. Madame Caillat n'avait pas amélioré Monsieur Caillat. Sans elle, on aurait encore estimé le greffier, bien qu'il dénonçât les braconniers. On le trouvait bon garçon, au fond. « Au fond seulement !» disaient les gens de peu, car il molestait les gens de peu. Petit devant le maire, petit devant sa femme, petit devant les bourgeois qui lui donnaient droit de chasse, il se faisait très grand devant les humbles. Arrogant, bougon, il était le plus souvent agiflé. Parfois cependant, sa grosse jovialité perçait, il blaguait lourdement les servantes qui avaient fauté. Quand Maufret et Séverin entrèrent, il était occupé à mettre le sceau de la mairie sur un éparpillement de feuilles blanches. À chaque coup de tampon, il examinait le papier avec le froncement d'un homme qui a conscience de ses responsabilités. Eux, debout, attendirent. M. Caillat se retourna enfin, les regarda un moment de pied en cap, puis, comme un homme qui se réveille, « Ah, c'est vous ! Vous venez encore pour un drôle, mon frère ! « Tout juste, Monsieur Caillat, même que c'est la 2e fois, Madame Caillat, eh bien, quand ce serait la 10e, pensez-vous que je sois là pour vous attendre et pour vous servir? Vous ne pouvez pas venir à l'heure convenable, pas vrai? Faites excuse, Monsieur Caillat, nous ne savions pas. À quelle heure faut-il venir? Quand je suis à la maison, pardi! Il est malin encore, ce vieux. Madame Kaya éclata de rire. Les deux paysans se mirent aussi à rire, par contenance. L'autre continua. « Pourquoi venez-vous deux ? Vous devriez savoir qu'on se passe de témoins. »«
Mais ce n'est pas un témoin, monsieur Kaya. »«
Non, » dit Séverin à son tour. « Ma femme vient d'accoucher aussi. »
« Alors, ça va faire deux actes. Ça tombe bien. Deux actes ce soir. Que le diable vous emporte. »«
Trois, monsieur Kaya, » dit Séverin.
« Trois ? » ?»«
Oui, trois. Parce que j'en ai deux à déclarer. Deux Bessons. » Le gros homme fit pivoter sa chaise et ses mains retombèrent sur ses larges cuisses.
« Deux, trois, trois drôles le même jour aux pelleteries. Porte à porte. Est-ce que vous vous payez ma tête ?»«
Pas du tout, monsieur Kaya. »«
Alors non, c'est vrai ?»«
C'est vrai. »«
Vous allez bien là-bas ? Si les lièvres peuplaient comme vous, c'est ça qui ferait de belles chasses au courant. »« Nom de Dieu, vous allez bien ? Enfin !»
Il attira à lui une feuille blanche et, sous sa main velue, sa plume tourna comme un oiseau qui cherche la branche où se poser.
« Allons, eh bien, les noms, »
fit-il.
« Qu'attendez-vous ? » ?»«
Constant Auguste, » dit Séverin.
« Bon,
fils de Séverin Patureau et de Delphine Bernou. »«
Bon,
à l'autre. »
« Antonin Maximin. »
Antonin, Ximin, fils de Idem.
Dites donc, mon vieux Patureau, lequel a été fait le premier ?
Il n'en sait rien. Quel lapin !
À votre tour, mon frère.
Les noms.
Monsieur Kaya, mettez ce que vous voudrez. Vous savez mieux que moi ce qu'il faut.
Tiens, c'est vrai. Vous vous en foutez, vous ?
Je me rappelle ça.
Il se rappelait que Maufray n'attachait aucune importance au nom de ses garçons. Lui s'appelait Louis, dit Louette. Alors pour le premier, il avait dit « Mettez Louis, comme moi ». Pour le second, on avait mis encore Louis, et ainsi de suite. Seulement le greffier avait ajouté des noms de son choix, et les cinq Maufray mâles s'appelaient Eusèbe, Gonzalve, Avite, Athanase et Richelieu.
« Alors, Louis, toujours ?»«
Maufray, Louis, comment ?»«
Louis VI ?»«
À votre désir, monsieur Kaya. Pourvu que le drôle soit un bon travailleur ?»«
Eh bien, Louis VI, alors.
Louis VI le gros, hein ?»«
Pour ça, monsieur Kaya, c'est bien vrai qu'il est gros. »
L'autre éclata de rire.
« Sacré bonhomme, va !»« Alors, hop, les signatures. Savez-vous signer seulement ?»
Séverin s'approcha, mais au même moment, il y eut un bruit à la porte. Madame Kaya ouvrit, et deux chiens jaunes, deux bassets affreux avec leurs oreilles de porc et leurs pattes difformes, se précipitèrent dans la cuisine. Monsieur Kaya s'était levé. De la main, il écarta vivement les deux hommes.
« Rangez-vous, rangez-vous donc. Vous ne voyez pas que vous êtes juste devant le rituel ?
Madame Kaya apporte la soupe. »
La dame versa la soupe aux chiens. Les papiers furent oubliés, le greffier n'était plus du tout pressé. Il se mit à caresser le dos des bassets et à leur trousser les oreilles.
« bonne bête, bon petit vieux.
Savez-vous qu'ils m'ont ramassé trois lapins dans leur matinée ? Hein ? Que dites-vous de ça ?
Ils sont plus fins à eux deux que tous les gars de Coutigny. »
Les chiens eurent vite lapé la soupe.
« Dis donc, madame Kaya, ils ont encore faim ? Tu n'as rien à leur donner ? »
La dame chercha dans un garde-manger et apporta une grande platée de viande.
« Il y a le lièvre d'avant-hier, » dit-elle. « Ils ont de quoi se régaler. »
Elle versa la viande devant les bassets, qui se mirent à grogner de satisfaction. Cependant, Maufray, qui commençait à trouver froid les carreaux de la cuisine, se risqua à parler pour rappeler qu'il était là.
« Bigre, madame Kaya, une platée de lièvre ? Voilà des chiens plus heureux que des chrétiens. Moi, dans ma vie, je n'en ai mangé que deux fois du lièvre.
« Que voulez-vous que nous fassions de tout le gibier ? » répliqua aigrement la dame. « Nous ne pouvons pourtant pas le vendre. »
Maufray reprit. « Monsieur Kaya, à cette heure que vous avez les noms, est-ce que nous pouvons nous en aller ?»«
Non, il faut les signatures, » dit le greffier, toujours occupé à ses chiens. « Moi, je ne sais pas écrire, » dit le vieux, tenace.
« Vas-y, toi, Séverin, pour que nous nous en allions. » Monsieur Caillat s'emporta.
« Vous ne pouvez pas attendre une minute, nom de nom. Vous croyez que je suis à vos ordres ? Allons, signez donc, Patureau. Nous aurons peut-être la paix ensuite. »
Séverin lentement traça son nom en grosses lettres. Le bec de la plume, en remontant pour le dernier jambage, piqua dans le papier et un peu d'encre sauta sur la feuille.
« C'est ça !» fit l'autre. « Barbouillé, maladroit. Enfin, ça y est, maintenant. Allez-vous-en, puisque vous êtes si pressé. »
Séverin et Maufray sortirent.
« Au revoir, monsieur Caillat.
Au revoir, madame Caillat.
Au revoir, au revoir. »
« Nous avons encore eu de la chance, » dit Maufray, comme il remontait la rue du village. « Nous avons eu de la chance que le Caillat ait tué ses trois lapins dans la matinée. Il a été presque riant. Je me rappelle des fois où il n'était pas abordable. Il n'est peut-être pas mauvais garçon, dans le fond. C'est sa femme qui le gâte. C'est une triste bique, elle, par exemple. »
Séverin répondit du fond de la gorge.
« Oui, vous pouvez bien le dire. Une triste, sale, vieille bique. » Moins fatigué que son compagnon et de sang plus vif, il rétivait davantage sous l'affront. Et puis, cette platée de viande jetée aux chiens lui semblait un insolent péché. Il songeait avec amertume que Delphine, après avoir mis deux enfants au monde, n'aurait pas seulement de soupe grasse pour réparer ses forces. Pourtant, en arrivant chez lui, il fut tout joyeux de voir devant le feu une grosse marmite qu'il ne connaissait pas. La belle-sœur, suivant une coutume qu'il ignorait, était venue tout exprès des Arolettes pour apporter une poulette blanche, et, accroupie sur la pierre du foyer, elle écumait déjà le bouillon jaune. Maufrette, elle, se remettait à chaque fois avec une grande potée de soupe bouillie, bien molle, bien molle.